Radio Classique, les spécialistes.
Voilà, nous sommes d'abord avec Dimitri, que nous avons salué tout à l'heure et que vous connaissez. Nous allons retrouver Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Guillaume.
Véritable phénomène politique, Angela Merkel, qui a fêté hier ses 15 ans à la tête du gouvernement allemand. C'est un record, ou pratiquement un record, Emmanuel.
Oui, parce que le record absolu, il appartient pour l'instant à Helmut Kohl, qui est d'ailleurs le mentor d'Angela Merkel et qui a été chancelier pendant 16 ans et 26 jours à la fin du XXe siècle. Alors Kohl a été le contemporain de François Mitterrand, tout le monde se souvient de la célèbre photo des deux hommes main dans la main à Verdun, de même que Helmut Schmidt avant lui avait gouverné en même temps que Valéry Giscard d'Estaing, avec qui il s'entendait très bien. Angela Merkel, elle, aura croisé 4 présidents américains et, excusez du peu, elle aura vu passer 4 présidents de la République à l'Élysée, puisqu'elle a pris ses fonctions du temps de Jacques Chirac, en fin de deuxième mandat. Elle aura connu Nicolas Sarkozy, François Hollande, et depuis 3 ans et demi, Emmanuel Macron, dont elle ne verra sans doute pas le successeur, puisqu'elle a pris l'engagement ferme de rendre son tablier à la fin de l'année prochaine. Alors que pourrait espérer de plus cette fille née à Hambourg, dans l'ex-RDA, elle qui a traversé tant de crises européennes, financière et maintenant sanitaire, et qui a eu les honneurs du magazine Forbes, la désignant non pas une fois, non pas deux fois, mais 12 fois comme la femme la plus puissante du monde.
Voilà, physicienne de formation, elle va au supermarché tranquillement faire ses courses, ce qui est évidemment très différent des présidents français. Beaucoup s'interrogent sur la recette Merkel. Y a-t-il un secret à une telle longévité au pouvoir ?
Bah, peut-être, Guillaume, une méthode de gouvernement, on va dire, sans tapage, sans coup de menton, qui lui a permis de remporter les élections à 4 reprises, même si la dernière fois, c'est vrai, en 2017, elle a senti, comme on dit, le vent du boulet et sa coalition tanguée. On a souvent parlé du pragmatisme d'Angela Merkel et il s'est illustré à plusieurs reprises, notamment dans l'affaire des migrants en 2015, lorsqu'après avoir ouvert les frontières à près d'un million de réfugiés venant de Syrie, elle proclamait « Wir schaffen das, nous y arriverons », avant d'être obligé finalement de prendre un virage sur l'aile face aux critiques, face aussi à la montée de l'extrême droite et du nouveau parti de l'Alliance pour l'Allemagne. La chancelière a refermé le verrou. Dernière crise, eh bien c'est la pandémie actuelle où la gestion d'Angela Merkel lui vaut une cote de popularité de 74%. La synthèse entre sa formation de physicienne, vous le disiez, et un bon sens de la logistique à l'allemande a permis au pays de faire face, même si c'est vrai, la deuxième vague est beaucoup plus difficile que la première. Dans un an, quand elle quittera le pouvoir, Mutti Merkel, comme on la surnomme volontiers, aura 67 ans, l'âge d'être devenue non pas la mère, mais la grand-mère de l'Allemagne, sur laquelle elle continuera de veiller sans bruit, à sa manière, avec sobriété.
Merci Emmanuel.
La matinale de Radio Classique.
De Radio Classique. Bienvenue à vous tous encore une fois, je suis ravi de vous retrouver. Voici Dimitri Favlenko, monsieur vaccin.
On a déjà fait la virgule, Guillaume, on enchaîne.
Alors les vaccins, c'est en deux temps, hein, Dimitri. C'est-à-dire que la première information, c'est que évidemment, tout le monde le sait, les Chinois ont commencé. Mais du côté de la communauté européenne, on a quand même une certaine forme de scepticisme quant aux vaccins chinois. Mmh. En revanche, concernant donc les vaccins à ARN messager, notamment les Américains, ça devrait démarrer dans les 15 jours ou les 3 semaines. Et puis il y a toute la question de la politique européenne. Nous sommes 470 millions. C'est-à-dire nous avons commandé qui, à qui. Et ça arrive dans combien de temps ?
Alors, ce sont des vaccins occidentaux, parce qu'il y a des vaccins occidentaux, un vaccin russe, un vaccin chinois, mais là, vraiment, il y a un camp occidental sur cette question des vaccins. Vous disiez, on est 470 millions en Europe, ça, c'est quand même un atout commercial.
C'est les prix.
De poids, effectivement. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même, dès le mois de juin, la France a pris le lead, a pris l'initiative sur ce sujet-là, avec 3 autres pays, les Pays-Bas, les Allemands et les Italiens, et s'est constitué une sorte d'équipe d'Europe, si vous voulez, des vaccins, qui fait qu'on a négocié avec les laboratoires, et même plutôt bien négocié, puisqu'on a des tarifs assez attractifs. De ce qui ressort de ces tarifs, c'est très secret. Hein. Chaque laboratoire ne vous donnera jamais le prix qu'il aura conclu avec l'Union européenne, mais on se situe dans une fourchette de 10 à 18 euros la dose, ce qui n'est pas très cher. 10 à 18 euros la dose, alors que la question est de savoir quand est-ce que ça va arriver. Ça va dépendre d'abord des autorisations de mise sur le marché. Là, c'est l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, qui a la main sur le sujet, qui a dit ce week-end qu'elle essaierait d'harmoniser ses dates d'autorisation avec la FDA, l'Agence fédérale américaine du médicament, probablement mi-décembre. Sachant que ces autorisations de mise sur le marché, elles seront provisoires, du fait qu'il n'y a aucun recul hein, quand même sur ces vaccins. Donc, par exemple, les enfants ne devraient pas être inclus dans ces autorisations provisoires. Qu'on a acheté aussi des lots de médicaments, on a donné de l'argent au laboratoire, ça c'est l'Union européenne qui a donné cet argent, pour lancer la production sur des vaccins dont on n'est absolument pas sûr qu'ils fonctionnent. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'Union européenne, qui a mis quand même un peu plus de 2 milliards sur la table pour cela, perdra son argent. Mais en revanche, les États n'auraient pas à payer les doses, les fameuses doses commandées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a commandé beaucoup plus que de raison, parce qu'on s'est dit que tous les vaccins probablement ne marcheraient pas. On est sur de l'ordre de entre un milliard et un milliard et demi de doses commandées pour une population de 470 millions. Voilà, et on a plusieurs fers au feu. En l'occurrence, la France, c'est 6 contrats passés avec 6 laboratoires différents. Alors, imaginons qu'ils fonctionnent tous, on sera en excès, on aura trop de vaccins. Dans ce cas-là, ce qu'a dit Emmanuel Macron ce week-end au G20, c'est qu'on donnera une partie des vaccins aux pays pauvres, parce qu'il y a quand même un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire que les Européens qui avaient dit le vaccin doit être un bien commun de l'humanité, tiens, tu parles Charles, bien commun de l'humanité, sur le 1,3 milliard de doses disponibles l'an prochain, les Occidentaux en ont commandé plus d'1,1 milliard. Ça veut dire que les pays pauvres auront accès qu'à une infime quantité des doses qui seront produites. Angela Merkel s'en est émue ce week-end en disant c'est quand même un petit peu inquiétant.
G20 qui s'est déroulé ce week-end par visioconférence.
Vous avez raison de le préciser, en virtuel, exactement. Donc, il y a quand même, sur ce sujet-là, il y aura un problème de disponibilité pour le monde entier. Les plus riches, ceux qui auront commandé les premiers, auront le vaccin en priorité. L'Europe en fera partie. Et y aura-t-il une forme de solidarité ? Écoutez, moi, je vois ce qui se passe, par exemple, sur la question de la dette des pays pauvres. On n'arrive pas à avancer sur la question des vaccins et d'une juste répartition. Il y a peu de chances que ça aboutisse, mon cher Guillaume.
Alors, il faut rappeler quand même une chose qui est très importante, mais vous l'avez déjà expliqué à de nombreuses reprises, c'est la technologie, puisque vous le disiez qu'effectivement, ces vaccins, en tout cas certains d'entre eux, ce sont des premières dans l'histoire de la science, notamment les ARN messagers. Notamment, c'est le Moderna et le Pfizer. Je rappelle de quoi il s'agit exactement pour ceux qui nous écoutent. On prend une séquence, c'est du séquençage génétique, ce qui est tout à fait nouveau, et on injecte ce séquençage dans la cellule humaine qui produit la fameuse protéine virale qui déclenche le système immunitaire. Donc on n'est pas du tout dans la logique des vaccins tels qu'on les connaissait actuellement. On est donc face à une certaine forme d'inconnu, mais c'est peut-être cet inconnu qui va débloquer à la fois l'histoire de l'humanité telle qu'elle existe actuellement et évidemment l'impasse économique dans laquelle on se trouve dans de très nombreux pays. Nous attendons demain les éclaircissements, s'il y en a, du président de la République. 17h47, nous allons parler d'un tout autre sujet. Il s'agit du journal imprévisible. Merci Dimitri, on se retrouve avec bonheur demain.
Avec plaisir. Journal imprévisible.